Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, forum service à la personne ce lundi 8 avril en matinée dans les locaux de Pôle emploi Villefranche. Différents métiers à découvrir, des postes à pourvoir en présence d'employeurs. Avec nous, Aurélie Bidot, conseillère entreprise à l'antenne de Villefranche. Puis, jeune chef d'entreprise de Carole Sénélard des Jours crée Marie Maglone, animatrice d'ateliers créatifs et de débats zéro déchet. Plus qu'une simple conviction, le respect de son environnement est aussi une philosophie de vie. Et pour conclure, un été contemporain au féminin, le musée Paldini à Villefranche présente à l'espace Cornille l'exposition « Elle, question de genre ». Dès à présent et jusqu'au 22 septembre. Calade, le journal. Le Mont Blanc reste ouvert à tous les alpinistes, mais il leur faudra désormais justifier d'une réservation en bonne et due forme dans un des refuges de l'itinéraire de sa voie classique dite normale, qui débute dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie pour en réaliser l'ascension. Lundi 8 avril, la Fédération française des clubs alpins et de montagne et des élus de Chamonix-Mont-Blanc et de Saint-Gervais-les-Bains, la préfecture de Haute-Savoie, a dévoilé les nouvelles modalités d'ascension du toit de l'Europe occidentale. 4809 mètres sur lesquels elle travaillait depuis l'automne 2018 en concertation avec les élus locaux et les professionnels de la montagne. La forte fréquentation de ce site naturel, fragile et affecté par le réchauffement climatique, l'a conduite à y réguler les flux d'alpinistes. Selon ses estimations, près de 25 000 personnes tentent chaque année l'ascension du Mont Blanc sans forcément la réussir. Et cet engouement engendre des phénomènes de surfréquentation des refuges, des problèmes de sécurité des pratiquants et ponctuellement des incivilités et des atteintes à l'ordre public qui ont atteint des sommets à l'été 2018. Sans rapport avec le permis d'ascension évoqué ou redouté par certains acteurs de la montagne, le dispositif dévoilé repose essentiellement sur une refonte du système de réservation de tous les hébergements situés sur la voie normale du Mont Blanc. Le dénivelé de la course et l'acclimatation à l'altitude de ce sommet imposent en effet à l'immense majorité des prétendants de passer au moins une nuit sur ces flancs à l'abri. Les réservations au refuge du Nid d'Aigle, 2372 mètres, de Tête Rousse, 3167 mètres, et du Goûté, 3885 mètres, feront désormais partie d'un dispositif global sur Internet qui permettra la traçabilité des personnes hébergées. Pour chaque réservation seront recueillies les identités complètes, nom, prénom, date de naissance, nationalité et la qualité, guide ou particulier, de tous les participants au séjour. Aucune modification ne sera possible, sauf pour les guides accompagnants des clients dont l'identité sera modifiable jusqu'à 48 heures avant le séjour. Une souplesse est conservée pour les annulations. Les arts pourront être remboursés en cas d'annulation plus d'un jour avant la date du séjour. Article de Patricia Joly pour le journal Le Monde. Forum service à la personne ce lundi 8 avril en matinée dans les locaux de Pôle emploi Villefranche. Différents métiers à découvrir, 50 postes à pourvoir en présence d'employeurs. Le point avec Aurélie Bidot, conseillère entreprise à l'antenne de Villefranche.
Oui, c'est un forum qui met en valeur les métiers des services à la personne, qui est un secteur qui recrute beaucoup sur le territoire du Beaujolais. Donc on a des employeurs qui sont partenaires et qui répondent toujours présents. Donc là, il y en a 11 qui sont là aujourd'hui avec une cinquantaine de postes à pourvoir. Et puis on a proposé également ce matin un café pour échanger avec des salariés. Donc les personnes pouvaient librement soit commencer par des entretiens de recrutement, soit aller discuter avec des salariés pour se rendre compte, on va dire, des conditions réelles du métier.
Alors évidemment, des demandeurs inscrits, hein, c'est ça, à Pôle emploi, j'imagine.
Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui font partie de nos fichiers. Et des personnes, là, on a fait un ciblage particulier sur des personnes véhiculées, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en difficulté de recrutement. Donc, on essaie d'agrandir un peu le champ de recherche par rapport aux demandeurs d'emploi. Et du coup, de susciter des vocations et d'essayer de trouver de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément de profil. C'est des personnes qui peuvent être formées. Enfin, voilà, les employeurs jouent le jeu aussi de ce côté-là. Donc, on essaie de faire connaître ces métiers-là.
Alors, l'aide à domicile qui peut, comment dirais-je, concerner quelles personnes finalement? Parce qu'il y a quelques années en arrière, carrière, c'était quelque chose de très très demandé, et vous dites qu'il y a un ralentissement effectivement des personnes qui le souhaitent.
Alors peut-être que c'est un secteur qui n'a pas forcément une bonne image, voilà. Donc on est là aussi pour aider à déconstruire un peu des clichés qui peuvent se faire sur ces métiers-là, parce qu'il n'y a pas seulement auxiliaire de vie, il y a des postes de garde d'enfants, des postes d'employés de ménage, donc et c'est des postes sur lesquels les employeurs recrutent tout de suite, où il n'y a pas d'exigence d'expérience, voilà. Donc après
des formations, je crois, internes, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec des personnes âgées, par exemple, c'est pas forcément un souci. On peut faire des immersions, on peut mettre en place des formations. C'est pas quelque chose qui est bloquant pour les employeurs.
Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Donc, vous avez dit tout âge, finalement, hein, peuvent se présenter sur
bien
ce
sûr.
Type d'emploi.
Bien sûr. Là, aujourd'hui, on a des personnes qui sont assez jeunes. Enfin, là, il y a vraiment tout âge. Il y a aussi des personnes, alors c'est un nouveau public qu'on voit apparaître, un public un peu, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais senior. C'est-à-dire des gens qui ont des enfants qui sont grands, qui sont, on va dire, sont libérés des contraintes familiales, qui sont disponibles le week-end, qui sont véhiculés. Donc là, ça correspond tout à fait dans la cible. Ce sont des personnes qui sont fiables également. Donc c'est des qualités qui sont très recherchées par les employeurs. Oui.
Alors combien ont répondu aujourd'hui sur une matinée de 4 heures, on va dire, à peu près, de recrutement, de forums ?
Là, il y a une quarantaine de personnes qui sont venues. Voilà. Ouais. Et les personnes avaient le choix de rencontrer qui elles voulaient. Et du coup, il y en a plus. Enfin, souvent, les personnes ont rencontré plusieurs employeurs. Donc c'est bien pour voilà, parce que chaque employeur a des contrats, des clients différents. Donc selon ce que recherchent les demandeurs d'emploi aussi, ça peut être. Enfin voilà, il y a pléthore d'offres à proposer, quoi.
Donc bien sûr, la possibilité de laisser son CV, mais aussi c'est. Comment dirais-je, un exercice en fait de répétition en quelque sorte que d'aller se confronter face à des employeurs, hein, aussi, hein, c'est peut-être aussi utile.
Bien sûr, et puis c'est sa capacité à s'adapter aussi à différents interlocuteurs. Après, on est là, enfin voilà, les employeurs cherchent avant tout des compétences et des, on va dire, des savoir-être professionnels. Donc tout le monde a sa place ici, on n'est pas regardant sur le métier, on ne cherche pas forcément des gens qui ont déjà d'expérience dans ce secteur, on cherche surtout des personnes qui ont des savoir-être et qui vont pouvoir être développées dans ce type de métier.
Donc 40 personnes qui se sont présentées et combien d'appels à candidature en quelque sorte de la part de Pôle emploi sur les demandeurs d'emploi dans ce profil ?
Alors sur ce profil-là, ça a été assez large parce qu'on a visé toutes les personnes qui étaient véhiculées et qui avaient un permis, parce que pour le coup, sur ces métiers-là, on recherche avant tout des personnes véhiculées parce que vous vous déplacez au domicile des différentes personnes. Donc on a eu un ciblage d'un peu plus de 1000 ou 2000 personnes. Donc c'est vrai que c'est assez conséquent. Après, on reste sur une invitation et on est persuadé que ce genre de format favorise d'autant plus la participation des gens plutôt que d'être sur un format, on va dire, plus contraint. On est sûr que les personnes qui sont là sont vraiment intéressées. Et puis, on a pu constater que les personnes étaient très, très à même d'échanger avec plusieurs employeurs, ce qui montre quand même la curiosité des candidats, avant tout.
Aurélie Vido, c'est une expérience qui va être renouvelée ou peut-être dans un autre corps de métier, hein, peut-être aussi ce forum au sein même de Pôle emploi.
Oui. Ici, on est très dynamique. On fait énormément d'événements. On répond toujours présent et les employeurs également. On essaye d'être très dynamique. Donc, que ce soit sur ce secteur-là ou sur d'autres secteurs, sur le transport, sur l'hôtellerie-restauration. Ici, en interne, on a des groupes de travail sur lesquels on essaie de. Enfin, voilà, on travaille pour mener beaucoup d'actions. Donc, on est plutôt une équipe assez dynamique. On est toujours à l'écoute des employeurs.
C'était Aurélie Vido, conseillère entreprise à l'antenne de Villefranche, dans le cadre du forum service à la personne, ce lundi 8 avril dernier, en matinée, dans les locaux de Pôle emploi Villefranche. Jeune chef d'entreprise, Carole Sénélard-Desjours crée Marie Maglone, animatrice d'ateliers créatifs et de débats zéro déchet. Plus qu'une simple conviction de respect de son environnement, c'est aussi une philosophie de vie et l'envie de la transmettre.
Oui, donc je réside en Beaujolais, je crée des articles textiles, comme vous le disiez, à tendance zéro déchet, cocooning pour prendre soin de soi et pour prendre soin de la planète, en tout cas pour éviter de créer de nouveaux déchets, des solutions durables. Toute la papeterie est imprimée sur du papier fabriqué en France, donc ça c'est un important pour moi aussi puisque ça permet effectivement d'avoir des circuits courts. Et donc plusieurs cordes à mon arc, oui, parce que je suis curieuse et que j'aime partager, échanger. C'est pour ça que je suis créatrice et animatrice et que j'anime des ateliers créatifs et des ateliers débats zéro déchet.
Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que vous êtes une chef d'entreprise finalement.
Oui, tout à fait. J'ai créé ma micro-entreprise il y a pile 3 ans, puisque je me suis inscrite à la Chambre des métiers de l'artisanat de Villefranche, en Beaujolais, en mars 2016. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'essaye de développer ma petite entreprise, comme vous dites. Et donc j'ai travaillé en périscolaire en parallèle, on va dire, puisque ça m'a permis aussi de transmettre les bons gestes et puis des idées de dessin, des idées de création, puisque j'ai travaillé dans le cadre des TAP pendant 3 ans.
Alors les TAP sont...
Alors c'était la mesure qui avait été mise en place donc pendant 4 ans, mais moi j'ai travaillé au sein des TAP pendant 3 ans. Donc dans les écoles, ça permettait de faire découvrir des activités périscolaires. Alors moi j'ai fait de l'anglais ludique, j'ai fait du dessin, de l'art plastique, de la peinture, etc. Tout ce qui tournait autour de la créativité et puis de l'upcycling, de créer à base de produits comme un t-shirt. Peut-on faire un sac avec un t-shirt? La réponse est oui.
D'accord.
J'ai toujours créé par moi-même. Ma grand-mère m'a appris à coudre et à crocheter. Donc j'ai toujours fait beaucoup de choses moi-même à la maison. Donc l'envie de me lancer est venue petit à petit. Et puis un jour, c'était le bon moment. Donc ça, c'était en août 2015 quand j'ai démissionné. J'ai pris le temps de m'entourer, pour proposer des choses qui me tenaient à cœur. Et en parallèle, j'ai travaillé dans les TAP parce que j'avais aussi envie de transmettre ce qu'on m'avait transmis quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours été plus ou moins dans le milieu scolaire, donc ça servait effectivement de... ça résonnait en moi d'aller en atelier en périscolaire.
Alors on s'arrête 2 secondes effectivement sur ce cap que l'on passe lorsqu'on se décide enfin de monter son entreprise, ce qui n'est pas facile, hein, quand on a un boulot confortable, etc. Et tout d'un coup, il faut se lancer. On a même quelquefois un petit peu peur, même si on en a très, très envie. Quel conseil donnez-vous?
Alors, d'écouter son cœur, mais de bien s'entourer, de voir si son projet est viable, parce qu'on peut avoir une passion, mais ne pas savoir la vendre. Et je crois souvent des créatrices qui ont un talent fou, mais qui ne sont pas vendeuses dans l'âme et qui ont du mal justement à développer leurs affaires. Alors, je ne dis pas que j'ai un chiffre d'affaires extraordinaire, mais en tout cas, quand j'arrive à transmettre ma passion, mon envie et à communiquer effectivement mes valeurs, je rentre vraiment dans le développement de ma micro-entreprise. C'est-à-dire que je vends, mais je vends à quelqu'un à qui ça parle et qui va vraiment faire usage de ce que je crée et qui va comprendre là où je veux en venir. Donc c'est important aussi d'avoir la passion pour pouvoir se développer, mais il n'y a pas que ça.
Plus d'infos, mariemaglonecreation.com. Et pour conclure cette édition, un été contemporain au féminin. Le musée Baldini à Villefranche présente à l'espace Cornil l'exposition « Elle, question de genre ». Des points de vue esthétiques et techniques d'œuvres de 10 artistes de genre féminin, dès à présent et jusqu'au 22 septembre. Pour nous en parler tout de suite, Sylvie Carlier, conservateur du musée Baldini.
Alors Sylvie Carlier, on connaît votre grande sensibilité, en tous les cas vous intéressez, je pense, à ces artistes féminins. Est-ce que j'ai raison?
Oui, absolument. C'est une question qui m'obsède de manière pas régulière, mais depuis 2006, nous avions proposé l'exposition sur les femmes artistes et l'avant-garde, parce que je me suis rendu compte que certaines artistes que je trouvais puissantes dans leur expression étaient méconnues, voire inconnues, parce que quand je suis arrivée à Villefranche-sur-Saône, Émilie Charmy était inconnue pour moi. Et en me penchant sur ces femmes artistes, j'ai réalisé qu'elles avaient été un moment important dans l'histoire de la peinture de leur période, quoi, dans les années 1910 à 1930. Et que les sentir en effet ignorer m'interpeller. Et puis dans le cadre de l'été contemporain, cette idée de faire une expo collective dans une actualité qui est quand même aussi récurrente sur la place de la femme dans la société, je me suis dit faisons-nous de manière ironique, elle question de genre, renvoyant en fait à la question en fait d'une discipline qui est beaucoup dans les pays anglo-saxons qui s'appelle la gender studies, les genres, l'étude de genre, sur la question d'identité sexuelle. Et puis le genre, est-ce qu'il y a vraiment un genre féminin, quoi? Alors la réponse, elle est à moitié répondue dans le déploiement, c'est que d'abord ce sont des artistes et que évidemment elles appartiennent à une sensibilité liées à leur histoire, à leur histoire familiale, et que peut-être qu'en effet, cette histoire familiale, c'est aussi parce qu'elles sont femmes, mais ce sont d'abord des artistes qui montrent une sensibilité à travers le paysage, de manière différente, Marina Intagob ou Hilary Diamond, mais aussi le travail sur la photographie, le dessin, leurs angoisses qu'elles diffèrent à travers une technique artistique. Et ça me semblait intéressant de proposer au public. Simplement une question qui permette aussi d'autres questionnements.
Nouvelle exposition Un été contemporain au féminin, intitulée « Elle, question de genre » à l'Espace Cornille, annexe du musée Paul Dini à Villefranche, jusqu'au 22 septembre. Fin de notre édition, n'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.